Aujourd'hui, donc, nous recevons M. Pierre Lascoum. Monsieur, vous êtes né le 22 décembre 1948. Vous êtes docteur d'État en droit. Vous avez une maîtrise en sociologie, une maîtrise en criminologie. Depuis 1989, vous êtes directeur de recherche au CNRS, affecté au groupe d'analyse des politiques publiques. Vous êtes donc un spécialiste de la sociologie du droit et de la sociologie de la régulation des risques, environnement, santé, génétique. Enfin, vous êtes également l'auteur d'ouvrages et de nombreux articles en matière de protection de l'environnement et de sociologie du droit. Je vous laisse la parole maintenant.
Merci bien. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La conférence que je vais vous présenter ce soir s'inscrit donc dans la continuité d'une série d'exposés qui, tour à tour, vous ont présenté sous des angles particuliers, les problèmes d'eau, d'air, de déchets, de bruit, des problèmes de chimie. Bon, bref, vous ont fait une sorte d'état des lieux des différents types d'atteintes à nos milieux de vie, aussi bien, on peut dire, du niveau planétaire au niveau le plus local. Et d'autre part, mes prédécesseurs ont essayé de vous présenter également une sorte de bilan des effets des politiques de lutte contre ces différents types de pollution, secteur par secteur. Alors, j'interviens en fin de cycle, car aujourd'hui, la notion de développement durable est très souvent présentée comme le remède absolu, une sorte de médicament générique qui intègre tous les autres traitements contre les pollutions particulières qui ont été mis en place et qui tente ou qui se propose de les articuler avec toute une série de grands enjeux scientifiques, économiques et sociaux. Mais quand on parle de développement durable, de quoi parle-t-on ? On peut se référer à une des meilleures définitions, des plus claires du moins qui soit, celle qui a été élaborée à l'occasion de la conférence internationale de Rio en 1992 et qui a fait de la notion de développement durable son principe fondamental. Dans son article 3, la Convention définit le développement durable de la façon suivante. Le développement durable doit satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures. On le voit, les questions de responsabilité et de solidarité, tant au plan national qu'international, sont au cœur de cet énoncé. Mais cet énoncé, on peut aussi le mettre en relation avec d'autres énoncés, et parmi beaucoup d'autres possibles, j'en ai choisi un qui est d'actualité, puisqu'il s'agit de la plaquette de présentation d'un colloque des professionnels de l'emballage qui a eu lieu en octobre 2000 à La Défense, et dont le titre est « Marketing et développement durable, l'emballage d'une vie à l'autre ». Ça ne s'invente pas. Je le lis un peu plus. Pour les entreprises, le développement durable sera à la base de nouvelles stratégies industrielles fondées sur l'amélioration de la performance et la prise en compte des exigences des consommateurs de demain. C'est cette belle unanimité entre l'énoncé du texte de la Convention de Rio et, par exemple, ce document élaboré par les professionnels de l'emballage qui a retenu mon attention. L'unanimité est toujours suspecte, car elle dissimule la complexité du réel, la multiplicité des perceptions, les affrontements d'intérêts, l'hétérogénéité des acteurs et de leurs stratégies. Et à ce titre même, cette unanimité, quelle qu'elle soit, doit être questionnée, même quand il s'agit apparemment d'une notion aussi optimiste, disons, que le développement durable. Le développement durable est en effet devenu un peu partout une sorte d'injonction que l'on voit reprise aussi bien dans les grandes conférences internationales sur l'harmonisation des rapports Nord-Sud que, par exemple, pour rester dans notre actualité politique française, dans les agendas municipaux, dits agenda 21, qui sont en fait des programmes locaux développés par les municipalités en matière de protection de l'environnement et qui, vous n'en doutez pas, vont être particulièrement, on peut dire, médiatisés dans les mois qui viennent. On peut dire également que cette notion de développement durable a été durcie par le fait qu'elle a été reconnue comme un principe juridique qui existe au niveau aussi bien de notre droit français depuis 1995, où ont été énoncés des droits fondamentaux de l'environnement, parmi lesquels figure la notion de développement durable, et également dans les traités européens, entre autres depuis le traité de Maastricht, où la notion de développement durable est considérée comme une notion fondamentale à partir desquelles doivent se développer les différentes politiques de protection et de lutte contre les pollutions. Donc, qui oserait aujourd'hui ne pas adhérer à des choix d'action collective qui prétendent, je cite, « assurer les besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs ». Cette définition provient d'un rapport réalisé par une série d'experts internationaux, économistes et environnementalistes en 1987, qui est connu sous le nom de rapport Brundtland, qui est celui qui a, on peut dire, le conceptualisé et assuré le succès de cette notion-là. Ce principe, tel qu'énoncé, cherche à concilier d'un côté un souci pragmatique pour le présent, on prend acte du fait qu'il y a un certain nombre de besoins à satisfaire pour les populations existantes, et que d'autre part, ce souci de prise en charge des besoins du présent doit être concilié avec un souci de solidarité intergénérationnel, c'est-à-dire les besoins des générations futures. Ce qui est aussi frappant, c'est de voir que même, on peut dire, les esprits critiques, comme les plus fervents tiers-mondistes, par exemple quelqu'un comme Ignacio Ramonet du monde diplomatique, ce type d'auteurs se sont également ralliés à cette notion, par exemple lorsqu'ils déclarent « le développement est durable si les générations futures hérite d'un environnement d'une qualité au moins égale à celui qu'ont reçu les générations antérieures. » Pour être plus précis, on peut dire un peu plus techniquement, sur le contenu de ce principe, on peut dire qu'il recouvre trois dimensions essentielles qui sont interdépendantes. La première notion est l'idée de la nécessité de limiter, tant qu'on peut le faire, les phénomènes d'irréversibilité, c'est-à-dire l'épuisement de ressources naturelles non renouvelables, le gaz, le pétrole, les minéraux, etc., et d'autre part, d'éviter la destruction irrémédiable d'espèces et de milieux, par exemple l'épuisement de certains poissons, comme le thon pêché en très grande quantité, ou bien de stériliser toute une partie de territoire par l'enfouissement ou le dépôt de déchets extrêmement toxiques. C'est le sujet qu'on a dû traiter hier. La deuxième dimension porte sur l'incitation à des conduites de prudence, aussi bien dans les diverses utilisations des ressources écologiques, les espèces, les matières premières, les milieux, que dans l'innovation scientifique et technique, c'est-à-dire utilisation prudente de la chimie, du nucléaire, des organismes génétiquement modifiés, etc. Ces deux premières dimensions sont également à mettre en relation avec une troisième dès que l'on raisonne dans les rapports internationaux, c'est-à-dire on considère que le développement durable passe également par la lutte contre la pauvreté, la solidarité avec les pays du Sud, le développement économique, le développement de la démocratie politique, le respect des cultures, et que cet ensemble de facteurs, s'ils sont reliés entre eux, doivent assurer ou devraient participer à la réalisation d'un développement durable pour les différentes sociétés concernées. Face à ces très beaux objectifs, je soulèverai d'abord deux lacunes. La première, c'est que, de mon point de vue, évidemment, c'est à tort que la notion de développement durable est présentée comme un remède, est présentée comme une solution aux innombrables problèmes actuels, aussi bien de réduction des pollutions que les problèmes actuels de technologie, de choix économiques et politiques. Et au contraire, on peut considérer que la notion de développement durable reste une notion extrêmement complexe, c'est-à-dire un véritable problème à résoudre, et qu'il n'existe pas encore de définition opérationnelle suffisamment stabilisée, qu'elle recouvre des objectifs assez flous quant aux moyens de les réaliser. Ils sont aujourd'hui encore, on peut dire, à l'état d'expérimentation. La deuxième lacune que je relèverai dans cette notion, c'est le fait qu'elle montre l'interpénétration croissante des approches économiques avec d'autres approches économiques et sociales, écologiques en particulier. Et ce mouvement, de domination des catégories économiques, s'accentue très nettement depuis une dizaine d'années. Il fait se rencontrer des rationalités pragmatiques, d'efficacité immédiate, avec des rationalités de valeur, la défense de la société future. Mais la question principale qui, selon moi, reste encore à traiter est celle de savoir jusqu'à quel point et comment ces deux types d'approches économiques et écologiques peuvent se concilier. Les formulations telles que je vous les ai présentées au début, c'est-à-dire aussi bien celles du rapport Brundtland, de Rio et autres, ces formulations présentent, selon moi, deux caractéristiques qui doivent susciter la réflexion critique. Tout d'abord, elles sont marquées par on peut qualifier un double consensualisme qui nie beaucoup d'oppositions et occulte beaucoup de conflits. Le premier consensus, sous-entendu par ces notions, c'est que la notion de développement durable suppose résolue des contradictions qui ont été longtemps majeures entre développement économique et protection des ressources et des milieux de vie. L'écologie politique s'est construite sur justement l'opposition à, ou du moins une sorte de volonté d'établir un contre-pouvoir à la prégnance des objectifs et des actions écologiques. Et ce qu'il est important de souligner, c'est à quel point, à l'origine de tout ce qui est la pensée écologique et environnementale, se trouvait moins la défense de la huppe cendrée et de la baie de Ramatuelle que la question des effets négatifs d'un développement technologique qui combine productivisme, recherche d'un profit et épuisement des ressources naturelles. Il faut rappeler et rendre hommage à un philosophe, Jacques Ellul, et à son grand ami géographe, M. Charbonneau, qui ont été les premiers dans les années 60 dans un contexte qui était encore un contexte de guerre froide, de post-guerre froide, qui ont été les premiers à critiquer de la même façon la volonté de productivisme promu internationalement par le capitalisme nord-américain et états-unien, puisque c'était le qualificatif, et d'autre part de dire que la société communiste, très technicisée, très centrée sur des objectifs économiques, ne faisait pas mieux et que dans un cas comme dans l'autre, on avait affaire à des sociétés techniciennes qui étaient en train de surexploiter les ressources naturelles et qui poseraient à terme un certain nombre de problèmes majeurs. L'histoire leur a donné malheureusement en grande partie raison. Il n'y avait pas, on peut dire, que les philosophes qui envisageaient cette opposition entre économie et écologie. Les industriels et les aménageurs ont pendant des décennies été les premiers, si je puis dire, à hurler et du moins à faire du lobbying contre toutes les actions environnementales, considérant que toutes les normes qui leur seraient imposées ne pourraient qu'accroître les coûts et donc accroître les prix pour les consommateurs, et que donc fondamentalement, la logique environnementale était contraire au bon développement d'une logique économique. Alors on se pose la question, par quel coup de baguette magique ces deux approches si longtemps antagonistes ont pu être réconciliées ? Le développement durable signifie-t-il le dépassement de cette contradiction entre économie et écologie ? Ou bien indique-t-il la colonisation des raisonnements environnementaux par la prégnance des impératifs économiques, c'est-à-dire la monétarisation des biens naturels et la marchandisation de tous les services écologiques. Le deuxième point de consensus implicite à ces notions de développement durable, qui me semble tout aussi problématique, est le raisonnement, repose sur le fait que ce raisonnement en termes de développement durable présuppose que l'immense diversité des acteurs, des acteurs sociaux serait susceptible de s'accorder de façon stable sur un ensemble de points déterminants. Par exemple, quels sont les besoins prioritaires du présent ? Autre exemple, quels seront les acteurs de l'avenir ? Quels seront leurs besoins ? Or, je pense qu'il n'est pas besoin, quand on observe à l'échelle nationale, d'être un grand clerc pour bien voir à quel point les oppositions existent dans le domaine de l'agriculture. José Bové versus la FNSEA, en matière d'aménagement du territoire, la logique de développement du réseau de la SNCF versus les riverains du TGV, en ce qui concerne la protection des espèces sauvages, les chasseurs versus les écologistes naturalistes. En matière de déchets nucléaires, le CEA en recherche désespérée de sites où enfouir ses déchets versus les viticulteurs du Gard, etc. Donc, les valeurs, les intérêts, les stratégies des multiples acteurs impliqués dans des enjeux environnementaux sont pour le moins distincts et très souvent opposés. De même, à l'échelle internationale, pas besoin d'être un grand spécialiste de géopolitique pour comprendre à quel point les États industrialisés sont loin de composer un groupe homogène et à quel point leurs intérêts respectifs sont loin de s'accorder avec ceux des États en développement qui eux-mêmes sont extrêmement diversifiés dans leurs besoins. Par exemple, en la situation en Afrique par rapport aux sociétés de l'Orient en voie d'industrialisation. Les affrontements internationaux actuels à propos de la lutte contre l'effet de serre ou sur l'accès aux réserves pétrolières témoignent amplement de cette situation qui est pour le moins non consensuelle. Par exemple, les États-Unis, qui sont aujourd'hui en fait les principaux producteurs de CO2, sont d'un côté tiraillés entre la nécessité pour leur position et leur prestige international d'être aux premières lignes des grandes négociations internationales en matière d'environnement, alors que bien évidemment, leur objectif est de parvenir à signer le plus tard possible et sur le moins d'engagement possible en matière, par exemple, de rejet de gaz d'effet de serre. Donc, s'agissant aussi bien de la diversité des acteurs sociaux concernés que des approches en termes de développement durable, s'agissant aussi bien de la diversité des acteurs sociaux concernés, les approches en termes de développement durable me semblent tout aussi réductrices, voire, je dirais, lénifiantes, lorsqu'elles plaident pour une conciliation entre économie et écologie. Mais il faut prendre acte du succès de cette problématique et s'interroger successivement sur les origines, sur le type d'ajustement entre intérêts contradictoires et également sur les conditions, les méthodes, les instruments susceptibles d'être utilisés pour assurer une réussite de ce type de projet. Donc, premier point, la question des origines. Je vous disais, rapport Brundtland, 1987, il vient après, disons, une sorte de bilan d'un peu plus de 10 ans de tentatives environnementales internationales, puisque la première grande conférence date de 1972 à Stockholm, date à partir de laquelle se sont développées des actions dans le cadre du programme national des Nations Unies, et également dans lesquels au moins tous les grands pays industrialisés se sont successivement engagés dans des politiques environnementales. Or, les lacunes des politiques menées dans cette période des années 70 et du début des années 80 a conduit à la notion de développement durable qui finalement repose sur cette idée qu'il faut sortir d'approches sectorielles et qu'il faut développer une approche intégrée des questions environnementales, c'est-à-dire coordonner les approches sectorielles habituelles, les approches en termes d'eau, les approches en termes de déchets, les approches en termes de consommation d'énergie, de transport, etc., et qu'il faut les mettre en relation avec des objectifs à long terme de justice sociale et culturelle. Cette vision très englobante et d'un certain côté rationnelle se veut une réponse aux multiples échecs constatés dans les politiques suivies dans à peu près tous les pays. En effet, depuis le début des années 70, chacun des grands États industrialisés s'est doté d'une série de programmes qui, la plupart du temps, traitaient enjeu par enjeu les questions d'épuration des eaux, de lutte contre les fumées industrielles, de régulation de la mise au point de nouveaux moteurs plus économes en énergie, etc. Et également, ces politiques sectorielles avaient pour objectif, de maîtriser l'utilisation du territoire, de contrôler l'urbanisation, de protéger une série d'espaces naturels sensibles, le littoral, la montagne, les forêts, des zones présentant un intérêt écologique original. Ces politiques, qui ont été menées à un niveau national, se sont également généralisées dans deux directions. D'abord dans un sens supranational, puisque à la suite de la conférence de Stockholm, toute une série de conventions internationales ont eu lieu et on considère aujourd'hui, à très gros traits, qu'il existe 700 traités internationaux, soit vraiment internationaux, soit bi- ou trilatéraux. Il en existe beaucoup en Europe, par exemple les traités qui concernent la protection du Rhin, qui ont essayé de renforcer et de dynamiser ces politiques sectorielles internationales. Mais également, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que l'extension s'est faite, on peut dire, vers le bas ou vers le bas des territoires, puisqu'il n'y a pas que chaque État qui est intervenu, mais beaucoup d'actions locales ont été menées. Et aujourd'hui, on peut considérer que dans la plupart des États européens, les collectivités locales, que ce soit les municipalités l'équivalent des départements ou des Landes en Allemagne, ont un rôle considérable dans non seulement la mise en œuvre, mais également bien souvent la définition d'objectifs de protection environnementale. Mais au bout, on peut dire, d'aujourd'hui presque bientôt 30 ans de ces politiques sectorielles, quand on fait des bilans, on se rend compte qu'il y a eu une multiplicité d'actions sectorielles, un enchevêtrement d'objectifs, une multitude d'acteurs, et que les résultats obtenus sont des résultats relativement insatisfaisants. La dégradation du milieu naturel a été limitée dans un certain nombre de cas, mais par exemple, quand on raisonne en termes de résultats globaux sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, sur les utilisations d'espaces comme le littoral ou la montagne, ou de zones humides, marécageuses, etc., zones d'extension de crues, en fait, les résultats restent très moyens et voire insatisfaisants. En France, un des domaines qui est apparu comme n'ayant pas été abordé ou mal cerné par les politiques sectorielles, c'est typiquement, par exemple, l'effet d'une agriculture intensive, aussi bien sur les questions de la qualité de l'eau que plus globalement sur des questions de qualité de vie en milieu rural. En matière de... Et si je reste sur l'eau, puisque j'ai le temps de donner un exemple, on peut dire qu'une étude qui a été faite par l'Institut français de l'environnement est assez révélatrice de cette tendance. On ne peut pas dire que les résultats sont mauvais, mais qu'ils sont typiquement moyens, puisqu'en France, on avait l'habitude de classer la qualité de l'eau des cours d'eau en trois catégories. Les eaux de très bonne catégorie, dans lesquelles, en gros, on peut pêcher, où se trouve un poisson abondant, des eaux de très mauvaise qualité, dans lesquelles il y a énormément de rejets, de pollutions diverses, et puis des eaux de catégorie moyenne. Un bilan qui a été fait sur 20 ans de politique de l'eau, la première grande loi date de 1964, mais on peut considérer qu'il a fallu attendre au moins le milieu des années 70 pour que vraiment cette politique commence à produire des effets. Donc en 20 ans de cette politique, les résultats sont les suivants, c'est que s'il y a eu une réduction des zones où l'eau est de la plus mauvaise qualité, il y a eu également une réduction des zones dans lesquelles l'eau est de la meilleure qualité et que donc il y a eu un nivellement par la moyenne. On pourrait faire la même démonstration en matière de pollution de l'air. Si d'un côté il y a eu très nettement la réduction d'émissions comme l'oxyde de soufre ou le monoxyde de carbone. En revanche, pour tout ce qui concerne ce dont on parle toujours à propos des effets de serre, le CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone, il y a au mieux un effet de stabilisation et on est aujourd'hui dans une situation où les mesures qui sont faites montrent que ce sont peut-être d'autres composants, par exemple du type de l'ozone produit par décomposition, qui sont aujourd'hui les produits qui sont les plus dangereux. Donc, les résultats sont, disons, relativement insatisfaisants. De plus, il existe, surtout au plan international, un certain nombre de situations irréversibles qui ont été créées malgré l'attention portée, des situations de déforestation, des situations d'épuisement de ressources naturelles, de désertification, de pollution irrémédiable de certains territoires, essentiellement par des déchets industriels ou nucléaires, et bien sûr la question de l'effet de serre. Enfin, ce qui est frappant, c'est de voir comment, malgré 30 ans de politique aussi bien scientifique, économique, d'attention portée aux problèmes environnementaux, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point les zones d'incertitude ne cessent de se renouveler et que la capacité de la science et de la technique à résoudre tous les problèmes, ce que nous croyons allègrement il y a 50 ans, que nous croyons encore un peu il y a 25 ans et que nous croyons de moins en moins aujourd'hui, donc la capacité de la science et de la technique à fournir ces fameux remèdes montre ses limites, également ses limites dans sa capacité à prévoir les évolutions. Donc, la notion de développement durable se propose de résoudre, de dépasser ces lacunes dues à 30 ans, disons, de politiques sectorielles peu coordonnées et finalement moyennement efficaces. Elle se propose donc de concilier environnement et objectifs de développement économique. Il faut là également faire un petit retour en arrière et bien rappeler que contrairement, j'imagine, à ce que vous croyez pour la plupart d'entre vous, et moi-même à ce que je croyais en commençant à m'intéresser aux politiques environnementales, il n'existe pas, et je suis assez clair là-dessus, au moins au niveau, disons, au niveau européen, que je peux le connaître, il n'existe pas de politique menée par un gouvernement qui ait eu pour objectif exclusif de valoriser la protection de tel ou tel milieu au détriment d'autres objectifs de développement économique et d'aménagement. Mais qu'au contraire, quand on fait l'histoire à peu près de toutes les grandes politiques sectorielles, RO, risques industriels, etc., ce que l'on peut constater, c'est au contraire comment toutes les politiques, en fait, ont déjà, hein, c'est mon idée, essayé de faire à leur façon du développement durable. Elles ont fait du pré-développement durable, puisque toutes ces politiques ont, depuis le début, au contraire, essayé de faire accepter des objectifs de protection en les conciliant, justement, avec des objectifs de développement et des objectifs d'aménagement des territoires. Pour donner un exemple concret, je dirais que la plus ancienne politique publique menée en France, mais aussi dans beaucoup de pays européens, concerne la forêt. C'est peut-être un sujet dont on parle moins, si ce n'est que la question des tempêtes récentes l'a rappelé. En gros, on peut dire qu'il y a une véritable politique, et surtout une politique d'État, dotée de moyens, dotée de science, c'est-à-dire avec des ingénieurs spécialisés dans ces domaines-là. Donc il y a une politique depuis le XVIIe siècle, en gros depuis Colbert. Or, quand on regarde les textes qui avaient été produits à l'époque, mais les actions qui ont été menées, on se rend compte que depuis cette époque-là, ont été posés des principes de bon usage des forêts, telle était l'expression, où l'on disait le renouvellement de la ressource doit être la condition de son exploitation. Il s'agissait de combiner deux échelles temporelles. Le court terme, qui était les besoins des habitants des zones forestières, et celui à long terme des cycles naturels de renouvellement de la ressource forestière. Au XIXe siècle, ce mouvement s'est encore accentué, puisqu'on a cherché à concilier, on peut dire, trois types d'intérêts. ce qu'on appelait à l'époque l'économie agropastorale, c'est-à-dire il y a des humains qui vivent dans les zones forestières, il s'agit de leur permettre de continuer, de maintenir leur vie là. Il s'agissait d'autre part de participer, enfin, ou de renforcer la lutte contre l'érosion et contre les catastrophes naturelles, puisque les liens commençaient à être faits à l'époque entre déboisement, avalanche, inondation et finalement destruction des terres agricoles. Et puis, le maintien d'un souci de productivité forestière, puisque la forêt française en particulier a toujours donné lieu à beaucoup d'investissements, et beaucoup, on peut dire, d'investissements d'abord de l'État, et pas simplement de propriétaires particuliers, et que la question du rendement forestier était également un objectif. Donc on voit bien, dès, on peut dire, la fin du XIXe siècle, cette combinaison entre trois types d'intérêts, la vie, le maintien d'une vie dans la forêt, lutte contre des détériorations particulières et souci de production. La même chose peut-être pourrait être développée à propos de la surveillance des établissements industriels. Donc on n'a pas attendu les années 60 ou 70 et un certain nombre de grands accidents pour s'attacher aux nuisances et aux pollutions créées par les établissements industriels, donc à l'époque les manufactures. De la même façon, depuis le début du XIXe siècle, 1810 exactement, il existe une politique de surveillance de ce qui s'appelait à l'origine les établissements incommodes et insalubres. Et il s'agissait de concilier trois types d'intérêts. Bien évidemment, d'abord, et ça a toujours été posé comme fondamental, de permettre aux manufactures et plus tard aux industries de se développer dans les meilleures conditions possibles, et en gros d'éviter les procès que leur faisaient les voisins et les municipalités. D'autre part, d'assurer malgré tout un certain nombre d'objectifs de santé publique, éviter que les fumées, les rejets dans l'eau, les déchets, etc., ne perturbent la santé des populations environnantes. Et puis, au cours du XXe siècle, on a rajouté un troisième type d'intérêt. On s'est dit qu'également, les activités industrielles devaient prendre en compte, au-delà de la santé humaine, la préservation de la qualité des milieux. Donc on le voit bien, cette notion de conciliation d'intérêt est une notion beaucoup plus ancienne que ce que l'on nous dit habituellement à propos de développement durable. Et je pourrais multiplier les exemples avec justement les politiques menées aussi bien sur les politiques en matière de parcs, de réserves naturelles, de zones de protection spéciale, etc. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que depuis le début des années 90, malgré donc cette antériorité de la conciliation des intérêts, beaucoup d'experts et de politiques n'ont eu de cesse de nier les oppositions, ou du moins les différences d'intérêts qui existaient, et ont cherché, on peut dire à toute force, à les aligner, à les mettre dans une relation qui ne soit plus une relation d'opposition, voire même de tension, mais plutôt dans une situation, au contraire, de parfaite complémentarité. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, quand vous lisez la littérature des spécialistes, le principal adversaire de l'écologie qui avait été l'économie est au contraire présenté comme son meilleur allié. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus aujourd'hui d'action environnementale qui ne passe par un raisonnement et par des moyens d'action économique. On peut dire que même au-delà, ce qui est aussi frappant de voir, c'est à quel point la justification des politiques environnementales se fait de plus en plus dans le sens où l'on dit que une trop grande détérioration des milieux naturels et des milieux de vie pourrait porter atteinte au développement des logiques techniques et économiques. Et c'est certainement pour cela, donc le document produit par les industriels de l'emballage le montre bien, c'est certainement parce qu'il y a eu cette inversion et qu'aujourd'hui on présente l'environnement comme un moyen de garantir à long terme le développement économique et technique que le thème du développement durable remporte un tel succès chez les industriels. Toute une série de changements d'expression atteste cet alignement des intérêts, donc cette sorte de négation des tensions entre ces polarités. Je n'en prendrai qu'un. Par exemple, pour justifier une politique de protection d'espaces naturels qui présentent un intérêt écologique parce que ce sont des lieux de nidification, parce que ce sont des lieux où on trouve des espèces végétales et animales rares, qui sont par exemple les zones d'expansion des crues, les marais, etc. On a, dans un rapport officiel, inventé cette très belle expression d'infrastructure naturelle. C'est bien parce que les zones d'expansion des crues et les marais peuvent être pensées comme des infrastructures naturelles qu'elles méritent d'être protégées, et non parce qu'elles ont une valeur écologique en elles-mêmes. Donc ce qui me frappe, c'est que nous assistons à une hybridation extrêmement forte de catégories qui jusque-là au moins étaient différentes et qui étaient même souvent en tension conflictuelle. Alors, si l'on réfléchit, ce sera mon dernier point, quels sont les instruments, les moyens qui permettraient malgré tout de parvenir à un certain type d'ajustement entre ces intérêts différents. Les instruments d'action qui essaient d'ajuster les intérêts, des intérêts divergents comme écologie et environnement ont été testés depuis une trentaine d'années, et on peut dire qu'une des caractéristiques du domaine des politiques environnementales est certainement d'avoir été dans le domaine de l'action publique un très beau terrain d'innovation et d'expérimentation. En effet, au-delà des instruments les plus classiques que l'on connaît dans l'action de l'État, c'est-à-dire la réglementation, imposer des déclarations, demander des autorisations, des permis de construire, le contrôle fait par l'administration, la possibilité d'amende, de sanctions, etc., au-delà de ces instruments, on peut dire, de régulation très classique, toute une série d'autres instruments ont été, on peut dire, inventés et généralisés. Parmi les premiers, il existe aujourd'hui énormément d'instruments qui sont destinés à fonctionner, on peut dire, comme des observatoires de l'environnement, c'est-à-dire des instruments de production de connaissances et de suivi des enjeux environnementaux, avec des activités d'inventaire, des activités d'observation en continu sur la qualité des milieux, et un certain nombre d'organismes sont chargés de centraliser ces données environnementales. Par exemple, l'Institut français de l'environnement, qui a été créé en 1992, en est un, et lui-même fait partie, on peut dire, d'un grand observatoire européen, qui est l'Agence européenne de l'environnement, qui se trouve aujourd'hui à Stockholm, et qui a été créé en 1994. Cependant, s'il y a beaucoup d'observations, cela n'est pas suffisant, il ne faut pas simplement décrire, il faut aussi comprendre. Et depuis une trentaine d'années, l'expertise environnementale s'est développée à très grande vitesse. Par exemple, depuis 1976, on a imposé à tous les entrepreneurs de projets d'aménagement conséquents de réaliser des études d'impact environnementaux de leurs projets, et la qualité de cette étude est un préalable à l'obtention des diverses autorisations nécessaires pour pas simplement tracer une nouvelle ligne de TGV, mais également pour construire toute une série d'équipements industriels ou d'équipements collectifs. Des choses plus précises, à partir de 1985, sur les questions, on peut dire, de dangers toxiques, on s'est beaucoup attaché à préciser, en termes de contrôle des menaces, les dangers que les établissements industriels à risque pouvaient présenter. Et il s'agit finalement pour les industriels, pas simplement de décrire par le menu les produits qu'ils utilisent, leurs techniques de fabrication, les systèmes de lutte anti-incendie, anti-explosion, mais également d'envisager les conséquences à moyen et à long terme que leur activité pourrait avoir sur le milieu dans lequel ils sont implantés. Donc, cette expertise environnementale s'est beaucoup enrichie, diversifiée, et on peut considérer également, dans ce sens-là, que toute une série de controverses ont été productives, celles sur la couche d'ozone, sur le nucléaire, sur le changement climatique, puisqu'au fond, elles ont mobilisé les communautés scientifiques sur l'évaluation de ce type de risque. En revanche, ce que l'on peut remarquer, c'est que s'il y a de la production de connaissances, il y a de la production d'expertise, les lieux d'intégration de ces différentes informations sont très peu organisés et les rencontres et les synthèses entre toutes ces informations se font encore très mal, ce qui explique régulièrement des situations comme celles que nous avons pu observer en décembre dernier sur les controverses à propos de l'Erika, où finalement il a fallu à peu près 2 ou 3 mois pour qu'il y ait un accord sur l'état des lieux, sur le danger, sur les menaces liées au produit lui-même, etc., alors que on était loin d'être devant une situation qui n'avait jamais existé jusque-là. Ce n'était pas le premier, disons, naufrage d'un pétrolier qui avait lieu. Mais donc, je crois que ça a été le révélateur, on peut dire, de l'éparpillement des savoirs et des compétences. En revanche, dans d'autres domaines, comme par exemple la lutte contre l'effet de serre, au niveau international, existe aujourd'hui un groupement intergouvernemental d'experts qui a permis de sortir de l'incertitude et d'amener des données qui tendent à confirmer l'hypothèse selon laquelle nous serions dans une période de réchauffement climatique et à étayer les hypothèses sur les origines de ce phénomène. Également, par exemple, pour l'épidémie de ESB, on a vu se mettre en place beaucoup plus rapidement que d'habitude. Certainement, c'était le contre-coup de ce qui s'était passé en matière d'épidémie à VIH, des structures d'expertise sur le suivi et le suivi épidémiologique de la maladie, et également l'accompagnement de ces observations par des recommandations faites par des comités d'experts français, européens, internationaux sur des mesures à prendre. Parmi les éléments d'intégration, aujourd'hui, devant le Parlement, existe un projet de loi de création d'une agence santé-environnement qui viendrait compléter les agences de sécurité sanitaire. Donc, si vous voulez, il y a bien une préoccupation dans ce sens-là. Un troisième type d'instrument existe, qui sont des instruments plutôt, on pourrait dire, d'ouverture démocratique. Il y a aujourd'hui pour tous les grands chantiers, non seulement la nécessité d'études d'impact, mais la nécessité de réaliser des enquêtes publiques. Il existe également toute une série de commissions locales d'information qui produisent des données en continu sur l'eau, sur les déchets. Il y a eu des commissions d'enquête pluralistes qui n'étaient pas strictement administratives, mais qui faisaient une part aux associatifs, aux élus, pour de grandes contestations comme celle du TGV Sud-Est ou celle du canal Rhin-Rhône. Également ont été créées à la suite de cela une commission nationale du débat public. Tous ces dispositifs attestent de la nécessité de sortir du cercle clos des experts et des décideurs et de prendre en compte un maximum de points de vue et d'intérêts afin de pouvoir rechercher des issues collectives aux controverses. S'il y a eu innovation, cette innovation s'est également accompagnée, bien évidemment, d'un certain nombre de complexités que je n'ai pas le temps de développer là, mais je donnerai simplement deux petits exemples. C'est que parmi les grands instruments dont on nous parle, justement dans le cadre du développement durable, la lutte contre l'effet de serre, on nous dit finalement, elle devrait se résoudre en créant un instrument de type économique, les droits à polluer. Or, l'opérationnalisation de ce type d'instrument qui présuppose qu'on est capable de faire une évaluation exacte à un temps donné de la quantité, de, par exemple, de CO2 produit par chacun des États, puis de suivre en continu l'évolution, plus ou en moins, de ces émissions, on peut dire que autant l'instrument est intellectuellement intéressant, et ça a donné lieu chez les économistes à des modélisations absolument extraordinaires, autant on peut aujourd'hui douter de notre capacité à opérationnaliser réellement ce type d'instrument. Dans Après-demain, Gilles Martin vous parlera de la question de la précaution. Typiquement, la précaution fait partie aussi de ces nouvelles démarches qui sont destinées à permettre de prendre en compte la complexité d'un certain nombre de situations présentes. Et c'est bien, l'intérêt et à la fois la difficulté de ce type d'instrument que de parvenir finalement à, par une voie expérimentale, à innover et à trouver des façons de décider sans trancher, c'est-à-dire nécessité d'agir alors qu'on est encore dans l'incertitude, sans rien dissimuler des interrogations que les uns et les autres se posent, et en même temps de toujours, réguler les actions en fonction des nouvelles informations. On peut dire que le suivi qui existe aujourd'hui sur l'épidémie ESB est typique quand même d'une démarche de précaution qui se cherche et dont on voit bien évidemment toute la complexité. J'en viens à ma conclusion. Pour ma part, et contrairement au bel optimisme d'une très grande partie de mes confrères, je considère aujourd'hui que la notion de développement durable relève beaucoup plus d'un mythe pacificateur qui occulte des tensions réelles entre des enjeux et des acteurs très différenciés et qu'il s'agit là beaucoup plus, on peut dire, d'un vague projet d'action plutôt que d'un cadre d'action cohérent susceptible de répondre directement à l'ensemble des problèmes précis qui se posent. Également, cette référence au développement durable peut être envisagée comme une idéologie professionnelle, c'est-à-dire une nouvelle raison d'agir pour des acteurs universitaires, chercheurs, consultants, beaucoup de consultants, des évaluateurs en tout genre, des administratifs, des politiques aussi. Hein. Il s'agit de leur donner donc de nouvelles légitimités d'action et on peut dire qu'aujourd'hui, les porte-paroles des générations futures ont tendance à se bousculer un peu aux portes et qu'il y a là une nouvelle spécialité en voie de constitution. Cependant, dans la mesure où la référence au développement durable incite toujours à un approfondissement des connaissances sur les milieux écologiques et sur les actions humaines, dans la mesure où elle stimule des forums de confrontation entre des points de vue divergents, où elle permet à des controverses de se développer, dans la mesure aussi où on ne perd pas de vue les exigences démocratiques, à ces conditions, on peut considérer qu'on peut entrer, ou on peut voir se silhouetter un nouvel âge des politiques environnementales qui serait moins cloisonné, qui serait économiquement mieux intégré, qui surtout serait évalué dans leurs coûts, dans leurs résultats, mais qui devrait toujours rester discutable par les générations futures. Et on peut dire que la notion de développement durable ne prendra véritablement son sens que si elle n'est pas réduite à une notion de développement économique et technique modernisé, et qu'il importe dans ce sens-là de ne pas confondre le renforcement d'une logique productiviste up-to-date, c'est-à-dire mise au goût du jour par le marketing, avec un nouveau modèle de développement maîtrisé. Et comme il est un peu tard dans la journée, vous me permettrez cette formule un peu facile, ne confondons pas les vessies des nouveaux emballages séducteurs avec les lanternes de la société à venir. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Lascoum.
Est-ce que, finalement, la présentation que vous faites n'est pas totalement utopique, malgré tout ? Parce qu'en fait, il y a toujours des questions d'échelle de temps, d'échelle d'espace, et qu'il y a toujours une lutte pour le pouvoir. Chacun essaie de gagner du temps. Il décide pour l'échéance qui lui est propre, c'est-à-dire une élection, la pérennité d'un budget, ou les échéances de fin d'année, et le but est de savoir si on est dans le rouge ou on n'est pas dans le rouge, et pour un État de savoir s'il va se développer par rapport aux autres et dans une certaine forme de compétition. Moyennant quoi, certes, on peut envisager de trouver un équilibre à une échelle générale, mais en fait, il ne faut pas être utopiste. On peut essayer de suivre le mouvement, mais on ne le maîtrisera jamais, parce qu'en fait, vous avez toujours un système de contre-réaction entre celui qui est pauvre et qui a besoin de s'enrichir et qui acceptera des conditions qui seront toujours plus difficiles que les autres, au risque de polluer son voisin. Son voisin ne voulant pas la pollution, il doit aider celui qui est pauvre pour qu'il reste chez lui. Donc en fait, ça c'est une échelle, mais vous pouvez la retrouver à toute autre échelle. Vous prenez la France, un pouvoir régalien qui veut que si le pouvoir administratif a décidé que la pollution était trop forte en Bretagne, on va installer les porcheries dans la région centre. Bon, les régions centre, il n'y a pas beaucoup d'habitants, et je dirais les gens vont subir la pollution. Au bénéfice des Parisiens, parce qu'ils mangent les porcs, mais ils n'auront pas la pollution. Bon. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, toute votre présentation est fortement utopique, et que, en fait, finalement, c'est la vie,
on doit marcher et il faut continuer à marcher. Certes, il faut plutôt être conscient des risques que l'on prend, pas trop écouter la télévision puisqu'elle vous donne le pas et vous la donne et essayer d'être simplement des citoyens qui essayons d'être lucides de son devoir et de ses droits.
Qu'est-ce que vous répondez à cette leçon ?
Non, je dirais que je me demande à quelle des deux utopies vous pensez, parce que c'est soit l'utopie du développement durable, soit on peut dire la mienne, qui est justement de ne pas croire au développement durable, donc, et de croire que l'on peut, disons, continuer à développer des actions sans se référer à ces catégories très générales. Donc, je suis plutôt d'accord avec le fond de votre intervention.
Deux questions en bas à droite.
Vous avez fait avant tout un état des lieux, mais quelle solution vous préconisez pour que la machine s'inverse ?
Écoutez, je crois que la question est malheureusement très simple. Je pense que ce n'est pas mon métier d'inventer des solutions. Je pense que c'est le rôle des scientifiques est d'être capable de produire des données, de produire des éléments de discussion, de créer du débat public, comme par exemple venir ici ce soir, de saisir les autorités responsables. En revanche, je suis contre le gouvernement des experts. Je pense que nous avons des politiques. Que je suis tout à fait d'accord avec, si vous voulez, les idées qui consistent à dire le savant en vase clos, enfin, santé, on peut être savant, enfin, la production de connaissances en vase clos qui ne concerne que 12 personnes, ça n'a pas grand intérêt. Je suis parfaitement d'accord avec ça. En revanche, les confusions des genres qui conduisent un certain nombre, on peut dire, de politiques à se présenter comme des savants et des savants à agir, à parler comme des politiques, me semble quelque chose de préjudiciable. Donc la responsabilité, au moins celle que je me donne, est plutôt celle de participer à, on peut dire, un certain nombre, sinon de prise de conscience, mais du moins de diffusion de connaissances, de connaissances générales et de nourrir des débats qui soient, on peut dire, le moins irrationnel possible, mais que ma responsabilité s'arrête là.
Merci. Une question tout en bas.
Oui, bonsoir monsieur. Moi, j'ai deux choses à dire. D'abord, je voudrais revenir sur une idée qui a été énoncée ici il y a quelques jours, qui était complètement absurde. C'était l'idée exprimée d'envoyer des poubelles dans l'espace. Et ça, c'est un truc incongru. Moi, je trouve, d'ailleurs, ça n'avait pas été retenu, Dieu merci. Et ma remarque, ma question, ça sera, concernera, il y a actuellement des tas d'espèces animales qui ont disparu. Alors moi je pense à une chose, il devrait y avoir un risque sur l'évolution du règne animal et du règne vivant en général. Alors la solution, est-ce que c'est pas le constat qu'il y a un réel danger ou comment on peut lutter contre ça? Est-ce qu'il y aurait des choses pour lutter contre ça sans faire référence à l'ADN? Il y a eu aujourd'hui d'ailleurs un truc qui a été découvert par les Américains sur, ils ont réussi à réveiller une bactérie de 280 millions d'années. Est-ce qu'on ne va pas être obligé de réveiller les bactéries des hommes?
Je ferai d'abord une remarque sur l'illusion que vous faisiez concernant les poubelles dans l'espace. Je ferai le lien avec ce que disait monsieur. Effectivement, on peut dire que il y a énormément de docteurs Folamour qui sont toujours en train d'inventer des solutions miracles. Hein, puisqu'on est aujourd'hui, j'ai un peu résisté à l'idée des remèdes, mais il y a des gens qui se sentent toujours extrêmement compétents quand il s'agit de définir des remèdes. Et en matière de déchets, les remèdes, il y en a eu beaucoup. Et en particulier, donc, par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure, effectivement, une des idées, et ça a commencé à se pratiquer, on peut dire, dans le courant des années 60, au début des années 70, consistait à, pour les pays développés, en particulier, donc aujourd'hui les pays du Nord, mais les pays aussi bien européens que par exemple, que les États-Unis, envisageaient très bien de donner une rente à des pays, en particulier africains, ou à certaines zones des pays d'Amérique du Sud, pour qu'ils acceptent de stocker chez eux, dans des zones plus ou moins désertes, enfin, les déchets que l'on considérait comme inadmissibles sur un territoire national. Alors, vous voyez, avant l'espace, donc il y a eu simplement l'idée de faire de l'import-export, ou de l'export-import plutôt, des déchets les plus toxiques. on peut considérer qu'aujourd'hui, ce type de pratique, même si on entend toujours parler de trafic ou de circulation de déchets dangereux, on peut considérer que d'abord c'est internationalement prohibé par toute une série de conventions, et que d'autre part, ce que l'on peut savoir est qu'il s'agit quand même de pratiques tout à fait exceptionnelles. En revanche, ce qui a posé problème, ce qui pose aujourd'hui certainement un problème majeur, c'est par exemple la façon dont sur son territoire, chacun des États envisage de traiter cette question-là. On sait bien que par exemple, l'ex-URSS a utilisé largement des zones entières des côtes et de la mer Baltique comme une gigantesque poubelle nucléaire. Mais il ne faut pas, c'est certainement un problème d'ordre majeur, mais enfin, ils ont fait à grande échelle ce que d'autres ont fait à plus petite. Par exemple, la France, dans les années 60, avait comme projet d'enfouir ses déchets nucléaires en Méditerranée. Ça a été un projet qui, heureusement, a été révélé par la presse, ça fait un scandale monumental. Mais enfin, vous voyez, donc, ces préoccupations existent. Alors maintenant, sur les espèces les plus rares, on peut dire que là, on passe à une toute autre échelle. Enfin, la seule réponse que je pourrais vous donner, c'est qu'il faut l'action, on peut dire souvent extrêmement méticuleuse, mais tenace, de très petits groupes. Par exemple, je pense que personne ne connaît ça ici, à quelques exceptions près, par exemple, personne ne connaît le Fonds d'intervention sur les rapaces, qui est une association, on peut dire, naturaliste française, qui, ne s'occupant que des rapaces, a malgré tout réussi toute une série d'actions extrêmement, on peut dire, efficaces pour faire préserver des zones de nidification qui, évidemment, pour la plupart, on peut dire, des aménageurs et même des gestionnaires du territoire, ne présentaient strictement aucun intérêt. C'était du style, mais pourquoi est-ce que vous me fatiguez avec des questions de nidification d'une famille d'aigles qui vient une fois tous les 15 ans? Donc, effectivement, on voit bien que certains groupes arrivent malgré tout à faire reconnaître l'intérêt d'espèces qui, quantitativement, évidemment, sont très faibles et, du coup, ont du mal à être prises en compte par même les politiques de protection d'espèces menacées.
Merci. Deux dernières questions, tout en haut à droite.
Fait voter là pour savoir si le président va avoir 5 ou 7 ans. Vous connaissez les résultats, pas la peine de s'étendre là-dessus. Mais on nous a jamais posé la question, est-ce que nous voulions de l'énergie nucléaire à la place de l'utilisation de l'énergie fossile? Est-ce que nous étions d'accord avec la pollution des nappes souterraines ou pas? Et puis je passe sur l'extermination de telle ou telle espèce, enfin plutôt par dizaines, voire par centaines chaque année. Ou ce que fait tel ou tel pays dans son coin là-bas sur lequel nous n'avons aucune prise. Bon, on ne nous pose pas ce genre de questions fondamentales qui touchent les générations futures. Et il me semble, il n'y a pas de raison de nous poser ce genre de questions. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de voir comment nous nous comportons dès lors que nous avons un taux de fécondité de moins de 2 enfants. Ça veut dire que nous avons fait le choix, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de génération future. Par conséquent, il n'y a pas à se préoccuper de ce que sera de la Terre par la suite.
Prenez la deuxième question, je répondrai.
Deuxième question. Madame, vous souhaitiez prendre la parole? Oui. Un peu plus bas.
Sur la première question de monsieur, je dirais que c'est une question, on peut dire, quelle est la position ou la place des citoyens que nous sommes dans nos sociétés. C'est vrai que nous sommes, on peut dire, dans une culture qui repose sur une double délégation. La société démocratique dans laquelle nous sommes a délégué à des savants, en leur donnant de la formation, des moyens, des responsabilités, leur a délégué le pouvoir de dire ce qui est le vrai et ce qui est le faux, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas, etc. Et d'autre part, nous avons délégué aux élus la possibilité de trancher. Or, je pense qu'aujourd'hui, votre réflexion en témoigne, ces deux délégations sont de plus en plus interrogées et que finalement, autant on peut considérer que la société démocratique ne peut fonctionner que par des délégations, il est de plus en plus important qu'il y ait, on peut dire, que les délégués rendent compte de leur mandat et que régulièrement, que les citoyens aient la possibilité de les interpeller et de pouvoir finalement participer aussi bien à la production de connaissances qu'à la prise de décision politique. Et pour donner un exemple lié à l'environnement toujours, on peut considérer que dans ce sens-là, par une expérience comme tout ce qui est les conférences de citoyens, sont typiquement des situations où l'on voit des profanes formés, dotés d'un certain nombre de temps et de ressources, qui sont capables de produire un certain nombre d'avis, aussi bien sur des questions de dangerosité et d'acceptabilité sociale que sur des mesures à prendre. Maintenant, sur le point soulevé par madame, c'est ce que j'ai dit à propos des collectivités locales, il faut dire que la France est très différente par rapport à beaucoup d'autres pays, dans la mesure où nous sommes certainement en Europe et peut-être dans le monde, en Europe, le pays le plus jacobin, c'est-à-dire le pays dans lequel la centralisation des pouvoirs, c'est-à-dire aussi bien des pouvoirs scientifiques, des pouvoirs de connaissance, des pouvoirs politiques et des pouvoirs économiques est la plus forte, alors que dans beaucoup de pays, on prend tout à fait l'inverse, par exemple l'Allemagne, l'essentiel des compétences en matière environnementale sont exercées non pas par les Länder, mais au niveau de chaque municipalité. Il faut dire qu'il n'y a pas des micro-municipalités comme chez nous, ce sont comme de très grosses agglomérations, mais traditionnellement, on a toujours considéré que ce qui était important, c'était la qualité de vie des personnes vivant sur un territoire, et que donc les responsables politiques de ces territoires ont toujours considéré qu'il était de leur responsabilité de mener des observations et de mener toute une série d'actions. Alors en France, si j'ai comme ça, c'est-à-dire dans ce temps-là, on ne peut dire que des choses à extrêmement gros traits. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à la situation dans laquelle on était dans les années 70, ce qui change certainement depuis les années 90, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas une collectivité locale qui ne prétende pas avoir un programme environnemental. Municipalité, conseils généraux dans les départements, conseils régionaux. Et que même, beaucoup de ces organismes mettent de l'argent. Aujourd'hui, il est de plus en plus frappant de voir que même sur des questions aussi, on peut dire, générales que la qualité des eaux, l'air, la gestion des déchets, etc., etc., qui sont traditionnellement des compétences régaliennes, des compétences de l'État, les collectivités locales s'emparent de cet enjeu. Alors la situation, c'est vraiment à la française, c'est-à-dire comme on a 30 et quelques mille communes, on peut dire qu'on a le pire et le meilleur. Vous avez du pur affichage politique, c'est ce que j'ai dit au début quand j'ai parlé de tous ces agendas 21 produit par les municipalités à titre, on peut dire, de programme électoral. Mais il y a aussi du très bon depuis très longtemps. Je ne cite qu'un nom, par exemple, parce que c'est une commune de taille moyenne, qui est Athis-Mons. La ville d'Athis-Mons a depuis très longtemps une politique qu'on peut considérer comme une politique de développement durable, c'est-à-dire une politique intégrée qui a essayé de mener de front la question de la rénovation urbaine, la question du maintien dans les habitats traditionnels des populations qui étaient là antérieurement, alors que d'habitude les rénovations se font en changeant le statut social des habitants, a essayé de traiter globalement l'ensemble des problèmes de circulation, de qualité de vie. Donc si vous voulez, on en est là, mais il y a des modèles positifs.
Merci encore beaucoup, Pierre Lascoum.